Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Excusez-moi. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, ou l'inverse. Et nous sommes aujourd'hui vendredi, le 2 juin. Bon, j'ai des raisons personnelles d'aimer beaucoup le mois de juin.
Quelle année?
L'année 2023.
OK, merci.
Oui. Y avait-tu une incertitude?
Pour être certain qu'on sache l'année? Que Francine était là.
Oui, Francine est là le 2 juin 2023. Bonjour Francine!
Bonjour Yvan!
Mon Dieu que j'avais hâte de vous revoir!
Est-ce que vous avez encore hâte de me revoir, puisque la période qui a précédé le début de cette émission a été peut-être un petit peu difficile pour vous?
Ça va très bien.
Ça va très bien?
Ça va très très bien.
Oh, que je suis soulagée.
Mais dans notre couple, là, pas vous et moi...
Ouais, hein? Partez pas de rumeurs, là!
Dans le couple avec Marie Lalande... On aime ça des fois, qu'un des deux part, juste pour avoir le plaisir de revenir.
Exactement, je suis d'accord avec vous.
Alors même à la retraite, là, ça nous arrive des fois.
Il paraît que ça arrive plus souvent à la retraite. Sérieusement, là, je suis très sérieuse. Oui? Qu'on ait le goût, ben, c'est parce qu'on est plus souvent ensemble généralement. Et à un moment donné, quand on a été habitué à avoir des activités professionnelles, chacun de notre côté, alors semble-t-il qu'il faut prévoir cela.
Puis quand on connaît toutes les histoires de l'autre, parce qu'on est toujours là, c'est un peu...
Ça radote.
Oui.
Là, on se dit, ben... Hein.
Là, présentement, Mathieu est vraiment... Il pleure en dessous de la table.
Pas du tout.
On n'a pas parlé de lui encore.
Je prends des notes. Ben non, franchement, j'ai choisi ma place.
L'anonymat
derrière la console,
derrière la fenêtre,
voilà.
La vitre.
Chacun son rôle, chacun.
Est-ce que vous avez manqué d'électricité vous hier?
Non.
Non?
Pas
et
du
vous,
tout.
Francine?
Non, mais vraiment, dans quelle sorte de pays vous vivez-vous? Vous manquez constamment d'électricité. Hier, on a enregistré une température de 50 degrés
oui,
tout
dans
près
mon
de
coin,
chez vous,
dans mon
à Montréal.
Ah ouais, dans l'est de Montréal.
Pauvre de vous.
Mais j'ai mangé des fraises hier.
Ah ben c'est sûr, ça doit pousser plus vite.
Oui, mais c'est un avantage dans ce cas-là. Et non, mais hier, on est allé, il y a un endroit où on va acheter des fruits et des légumes frais, c'est à Repentigny, toujours du côté est. On a rempli notre petit panier, on vient pour payer, bang, panne d'électricité.
Oh.
Je nommais pas l'endroit. Puis, pas capable de payer. Alors, on a laissé notre panier là, un peu penaud. Et on est revenu à notre ville d'Anjou. On est allé aux Halles, puis on a acheté nos choses quand même. Mais on a célébré le début du mois de juin avec des fraises et de la crème.
Des fraises qui ont été cultivées en serre.
Non, ben, c'était écrit fraises du Québec. Là,
oui, en
dans
serre.
Dans le petit panier.
Oui, en serre.
Vous y tenez beaucoup. Hein?
Ben, je crois que oui, parce qu'on a eu une discussion sur les fraises il n'y a pas longtemps lors d'une rencontre familiale. Et les fraises, parce qu'il y avait des fraises, ça provenait des serres.
Ah bon?
C'est un peu tôt à ce temps-ci. En tout cas, ce n'est pas des fraises de l'île d'Orléans.
Pourtant, j'ai eu beaucoup de plaisir hier à manger mes fraises.
Mais ça se peut qu'elles soient très bonnes. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes.
Oui, d'accord.
Ah, ça va être long jusqu'à 11 heures.
Alors, Francine, depuis 2 semaines, qu'est-ce qui a retenu votre attention, vous?
Non, seulement depuis cette semaine. Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu ces 3 chroniques de Patrick Lagacé sur un homme hors norme.
Oui.
Un homme hors norme, oui, c'est ça. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à le faire. C'est sur lapresse.ca. Alors, Patrick Lagacé... qui parfois, moi, je trouve...
C'est pas votre favori.
Et presque... Non, c'est pas toujours mon favori, mais parfois, je trouve qu'il touche une espèce d'état de grâce, un peu comme Foglia. Et je trouve que dans ce cas, ça l'était. Il a parlé d'Yves Belair. Yves Belair, quelqu'un qui est atteint de paralysie cérébrale, qui est mort, qui a fait le choix... Qui a choisi, effectivement, de prendre de l'aide médicale à mourir. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que nous, ici, on parle souvent de personnes qui ont des limites, qui, malgré tout, progressent très, très bien dans la société, qui ont des projets extraordinaires, qui les réalisent.
Oui.
Mais c'est qu'il a pris le temps de le faire de façon, je dirais, approfondie, du début à la fin. C'était un peu comme un documentaire sur cet homme-là, mais on n'avait pas besoin de faire... stop rewind pour revenir sur ce qu'il sur sa vie, puisque les mots étaient là constamment sous nos yeux.
Oui.
Et moi, j'ai beaucoup aimé ça et je trouvais que c'était très bien écrit. Pas trop d'émotions, juste assez.
Oui, moi, je retiens une phrase de ces trois chroniques-là. C'est quand, à la toute fin, hein, il va... voyons, comment il s'appelle le monsieur?
Monsieur Belair.
Monsieur Belair, il voit les gens, il rencontre un à un les gens qui sont chez lui avant de recevoir le traitement. Alors, il reçoit Patrick, puis Patrick, il demande comment il va. Puis lui, avec un petit air taquin, il lui dit, « Moi, ça va bien. Et toi? »
Moi, c'est la phrase du médecin. C'est drôle, hein? La phrase du médecin, le docteur L'Espérance, qui dit, « Je suis honoré de vous avoir connu, Monsieur Belair.
Mm-hmm.
Bon voyage. »
Voilà.
Voilà, alors c'était mon fait saillant.
Fantastique. Moi, de mon côté, la semaine dernière, j'ai parlé avec M. Gilles Roux de Zéro Limite parce qu'on parlait d'un événement sur le Mont-Royal. C'est un événement inclusif où on montait le Mont-Royal avec des... j'oublie. Joëlette, moi, j'avais Joliette dans la tête, mais je dis non, c'est pas ça. Joëlette. Il m'a écrit, moi, je lui ai envoyé le lien de l'entrevue, comme je fais régulièrement, et il m'a répondu en disant qu'il y avait eu une très belle journée samedi dernier. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé. Vous pouvez voir des photos sur la page Facebook de Rando Québec ou une courte vidéo sur le belvédère du Mont-Royal sur la page Facebook de Zéro Limites. Voilà. Aujourd'hui.
Oui, on pas cette semaine, aujourd'hui. Oui, on va faire la semaine. C'est parce que moi, en 1h30.
J'ai presque passé la semaine ici, fait que je suis un peu mélangé.
Bon, ça paraît.
Aujourd'hui,
moi, Francine, j'ai mis ça sur le compte du soleil, vous voyez, la chaleur.
Il n'y a pas beaucoup de soleil dans le studio, on va dire.
Marcel Dugas. Alors, Marcel Dugas, notre historien qui va nous parler de Zellers et Eaton's, qui sont des magasins qui ne sont plus en opération, ça s'en vient, ça devrait revenir dans le décor sous différentes formes. Alors, ce sera très intéressant. De mon côté à moi, je vais vous parler de conserver ces photos peut-être autrement, de la façon dont vous le faites.
Oui.
Et je sais que ça vous intéresse de façon particulière.
Oui.
Et aussi, dans la une du Devoir et dans les pages intérieures du Devoir, on a un long reportage sur Habitat 67 en virtuel.
Mm-hmm.
Et je vais vous en parler et je vais vous dire aussi comment on peut accéder pour voir ce Habitat 67 en virtuel.
Oui, 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 tout à fait. De mon côté, c'est une entrevue qu'on a enregistrée cette semaine avec Mme Judith Belair-Kerr, qui a souffert de la maladie polykystique des reins, au point où un jour, elle a mis une publication sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui a levé la main. Évidemment, si vous ne pouvez pas écouter ça maintenant, écoutez-le en rattrapage. C'est vraiment... c'est pas parce que j'ai animé l'entrevue, mais ce qu'elle nous dit, la dame, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, manquez pas ça d'une façon ou d'une autre.
Si vous me permettez, Yvan, je vais faire une petite auto-promotion parce que sur la page de notre émission du jour, il y a toujours deux onglets justement sur l'entrevue de Au-delà des limites et aussi sur les personnes que vous recevez qui viennent parler de différentes activités organisées par leur association ou les organismes qu'ils représentent.
Tout à fait. Et cette fois-ci, ça va être Moi, l'épinière et Motricité Québec avec Vanessa Anne Paris, qui va nous parler particulièrement de plusieurs choses, mais particulièrement, elle va faire un retour sur le salon du véhicule adapté qui a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu quelques affaires en fin de semaine dernière. Vous auriez dû être là, Francine.
Et non,
alors, on part ça aujourd'hui.
Savait pourtant comment donner
La chanson Couteau de poche, c'était un duo, bien sûr.
Oui, bien sûr, parce que c'est vendredi. Mm-hmm. Donc, Maude Audet et Philippe B. Maude Audet, c'est la conjointe de Fabien Cloutier. Et Philippe B., j'en ai pas la moindre idée.
Mais c'est ça que j'allais dire. Là, si on veut vraiment qu'il y ait une équité, là,
oui.
Il faut absolument que vous trouviez le conjoint ou la conjointe de Philippe B.
Je me mets là-dessus.
Allez-y. Pendant ce temps-là, je vais faire les actualités. La Presse Plus. La Presse Plus, pour commencer, réforme de la loi 101. Alors, on parle, des services en anglais, services d'exception à la ville de Montréal. Il faut attester de bonne foi qu'on y est admissible pour bénéficier de certains services de la ville de Montréal dans la langue de Léonard Cohen. C'est un article signé Philippe Teixeira-Lessard et on apprend que les Montréalais doivent désormais attester qu'ils ont droit aux services gouvernementaux en anglais pour consulter la version anglaise du site web de la ville, en parler ou parler en anglais au 311. Bon, là, pour consulter le site web de la ville, je ne sais pas trop. Moi, je suis allée ce matin et quand même, c'est pas inaccessible, mais peut-être que sur les services, ce qu'on veut dire, c'est que les services sont d'abord offerts en français et qu'on va on va aller vers l'anglais uniquement si c'est une personne qui a droit à l'utilisation de la langue anglaise. Mmh. C'est un petit peu particulier. D'ailleurs, les commentaires, même quand on est très francophile, là, les commentaires sont assez... Ouais, direct, je dirais.
Ouais, je suis pas
donc,
très à l'aise.
Si vous allez sur le site web, vous allez voir, il y a un bandeau en haut. Vous cliquez sur ce bandeau et là, vous arrivez sur, la loi 101, sa modification, la nouvelle charte et les dispositions qui font que la ville de Montréal a adopté cette façon de faire. Mm-hmm. Ce n'est pas le seul endroit.
Non.
Et d'ailleurs, sur le plan municipal, il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. Est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce qu'on va trop loin dans l'adoption de la loi? Dans la façon de la mettre en œuvre? Je ne sais trop, mais en tout cas, ça fait drôle. Ça fait drôle.
Oui,
je vous dis, en tout cas, on verra. On verra où ça va nous mener, ça.
Puis quelque part, le but de la loi, c'est de préserver le fait français au Québec. Puis je ne suis pas sûr que ce moyen-là va y arriver.
Mais là, partez-moi pas là-dessus.
Non.
Je vais vous dire que moi, je ne pense pas qu'il y a aucun des moyens dans ce qui a été amendé qui va nous permettre d'arriver à bon port.
Ceci étant dit,
j'enchaîne avec les feux.
C'est quand même une préoccupation qu'on doit avoir.
Oui, c'est une préoccupation qu'on doit avoir sérieusement parce qu'on ne travaille pas sur ce qu'on devrait travailler. Les feux maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé des feux et la chaleur. Non, mais excusez-moi, mais c'est quelque chose qui vient me chercher personnellement et pourtant Dieu sait que j'aime le français puis que j'aimerais qu'il y ait davantage de français à Montréal.
Mm-hmm.
Mais voilà. Il a fait 50 Celsius à certains endroits de Montréal et on est en plein dans la saison des feux. Bref, la chaleur est présente partout. Alors, c'est dans le Journal de Montréal, hier, il y a... le Journal de Montréal est parti à la recherche de l'endroit le plus chaud de l'île Et comme je l'ai mentionné en ouverture d'émission, ils ont fini par trouver une température qui atteignait 50 degrés Celsius dans, à Pointe-aux-Trembles.
À Pointe-aux, hein?
Mais oui, c'est ça, à Pointe-aux, voilà. À Pointe-aux-Trembles, c'est dans le parking des Galeries d'Anjou, je crois. Que
Non, sûrement
non?
pas.
Non?
Non, c'est le parking non, non. des Galeries d'Anjou, c'est à Anjou.
C'est vrai, vous
comme,
avez raison.
Comme le nom le dit.
Oui, c'est ça. Et c'est à Pointe-aux-Trembles qu'on l'a enregistré. C'est tout ça. À fait. Vous avez... Merci de me corriger. Mais dans... aux Galeries d'Anjou, on a atteint quand même 43 degrés Celsius vers midi. On n'était pas loin. Alors, c'est un travail que Marianne Langlois s'est donné
tapé.
Comme mandat de faire. C'est taper, c'est le cas de le dire. Écoutez, on parle aussi là-dedans de Chappais où on a évacué des grandes parties de territoire parce que il y a toute une partie sud de Chappais et des environs dans le nord du Québec qui malheureusement, présentement, il y a des feux extrêmement importants. Alors, les gens... Et ce qui est inquiétant aussi, c'est ce qu'on rapporte largement là-dedans, c'est que la température... va continuer à être chaude, même si ça va être moins chaud. Puis on n'a pas de pluie à l'horizon, de véritable pluie. Et on expliquait d'ailleurs ce matin à la météo, à Radio-Canada, que quand il y a un orage, c'est beaucoup d'eau en peu de temps, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut pour aider, les pompiers à maîtriser des feux.
Oui, bien sûr. Puis il y a des éclairs.
Oui. Exactement. Alors, on ne sait pas ce que ça peut faire.
D'ailleurs, il n'y a pas une directive qui a été émise hier comme quoi on ne peut pas aller se promener dans la forêt n'importe où au Québec.
Exactement. On est très sévère. Là. Il y a beaucoup de directives. Est-ce que c'est respecté? On ne le sait pas. L'Ouest et la Nouvelle-Écosse aussi y goûtent. On dit qu'il y a l'équivalent d'environ 5 millions de terrains de football qui a été réduit en cendres.
5 millions?
5 millions de terrains de football qui a été réduit en cendres par des feux de forêt. Particulièrement intense depuis le début de l'année au pays. Alors, c'est dans le pays. On parle de l'Alberta et là, comme on dit, ben la Nouvelle-Écosse, on le sait, vient de se joindre à cette situation, ce qui n'est pas évidemment très jojo. Et au Québec, ben tous les éléments sont réunis pour que ça s'embrase, comme dans l'ouest du pays, la Nouvelle-Écosse nous rapporte le Journal de Montréal. Alors, bref, on n'est pas sorti du bois. C'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, on a vu, des fois, quand on est dans un environnement urbain, on peut se dire, bof, ça se passe en forêt, c'est loin. Mais on a vu hier qu'il y a des pannes électriques été causées à Montréal et dans la région métropolitaine, entre autres, dues justement au feu. Et cela, c'était en provenance de cette île.
Oui.
Alors, c'est pas... c'est ça.
Oui, puis en Nouvelle-Écosse, c'était pas loin d'Halifax, là. C'est pas une bourgade, là.
Non, voilà. Je vais terminer avec le devoir. Est-ce que vous avez déjà vu The Truman Show?
Oui.
Vous avez déjà vu ce film?
Oui.
Et le devoir, en manchette, dit The Truman Show, plus prophétique que jamais. Alors, c'est un film de science-fiction qui, il y a 25 ans, mettait en scène dans une réalisation de Peter Weir qui a fait Dead Poets Society, entre autres, et Witness aussi, mais Dead Poets Society, c'est vraiment très connu, et donc qui mettait en vedette Jim Carrey. Et François Lévesque nous rappelle que chaque matin, Truman Burbank, qui embrassait son épouse, il partait travailler sous toujours un soleil radieux, il faisait toujours beau. Je me rappelle du petit bateau, là, et c'était extraordinaire. Saluant en chemin, passants et voisins. C'était une scène idyllique. Or, il se trouve qu'il s'agit de cela maintenant. C'est tout. En fait, il se trouve qu'il s'agit de cela d'une scène, puisqu'à l'insu du jeune homme, sa vie tout entière n'était qu'une vaste
télé-réalité
filmée dans un immense studio par d'innombrables caméras cachées. Alors évidemment, on fait un lien avec un peu la vie qu'on vit aujourd'hui, toutes les télé-réalités qu'on fait. Et lui, il ne savait pas cependant, c'était pas son choix de participer à cette télé-réalité. Il ne savait pas qu'il était dans cette situation-là. Et quand il l'a découverte, cette situation, évidemment, mais là, il n'était plus d'accord pour participer à cette mascarade. Mais disons que ça y a pris du temps avant de comprendre que cette vie idyllique qu'il avait était en fait une « fake life ». Oui, une vie complètement falsifiée,
et puis là, on parle d'il y a 25
organisée
ans.
De toutes parts. Oui, on parle de 25 ans, c'est quelque chose, hein? Ben d'ailleurs, on en a déjà parlé, vous et moi, il y a combien de films, et on pense entre autres au Dune de Villeneuve,
Oui.
et qui nous, on a l'impression que c'est des choses qui ont été écrites hier.
Oui,
Et
puis
c'est pas le cas. C'est pas le
ça.
cas. Frank Herbert, c'est pas d'hier.
Oui. Puis ça donne que lundi, il me semble, c'était la chronique de Daniel. Oh, j'ai oublié son nom de famille. C'était sur les téléréalités, lundi dernier. Puis là, j'ai un blanc de mémoire. Là, je suis
Ça reviendra.
un senior moment, comme on dit
Un
en anglais.
senior moment, OK.
Ouais.
Alors, ben voilà, moi j'ai terminé. À vous la parole et à Monique.
Merci. C'est Daniel Rioux en passant. Et on va vers Monique du côté de l'Estrie. Bonjour Monique.
Oui, bonjour. C'est bien de vous rappeler de mon nom, Yvan.
Ah, oh, mais Monique, vous avez vu que je l'ai aidé. Je vous ai dit, la parole est à vous et à Monique.
Oui, c'est
C'est
ça,
écrit sur mon
exactement. Merci
papier.
beaucoup, Francine.
Je
Alors,
commence
c'est
à avoir
fait que
des
vous aimez
papiers un
les
peu
livres.
partout.
Je vous parle d'abord de livres. Écoutez, la direction de la bibliothèque de Magog a décidé de sensibiliser les lecteurs à l'importance de ne pas abîmer les livres. Depuis quelques jours, il y a une table installée à l'entrée de la bibliothèque Memphrey-Magog. On y a disposé des bouquins endommagés lors de prêts à des citoyens. Ben, il y a 4 tables d'horreur,
Aïe.
Subdivisées par thème. Le barbouillage, le déchirage, les animaux, la moisissure et les tâches diverses. Alors, chaque livre, il faut savoir, qu'on achète coûte environ 100 $ compte tenu du processus d'acquisition qu'une bibliothèque doit suivre. Si on doit en acheter un autre, ben on est rendu à 200 $ pour le même livre. La bibliothèque a donc entrepris de faire payer les livres aux usagers négligents au prix de la valeur marchande. Passons maintenant à l'école. Conscientiser les élèves à être de futurs citoyens responsables sur le plan environnemental, eh bien, c'est l'objectif du tout nouveau programme Éco-plein air qui verra le jour lors de la prochaine rentrée scolaire à l'école Saint-Laurent située à Lawrenceville en Estrie. Depuis plusieurs années, les élèves étaient appelés à sortir en nature pour réaliser certaines activités. Mais il y a une volonté maintenant de structurer le tout au sein, et ça a été fait par l'équipe école. À travers le cours, ben, les élèves développeront principalement 2 compétences, soit la conscience de son environnement et vivre harmonieusement avec son environnement. Le programme s'ancre davantage dans une dynamique d'observation et de conscientisation, contrairement à une dynamique sportive qu'on peut déjà voir dans certaines écoles. Alors, le programme s'étendra de la première à la 6e année, mais même les élèves du préscolaire seront sensibilisés à l'importance de l'environnement. Je vous parle maintenant de défis transport actif. Eh bien, autrefois, semble-t-il, chers animateurs, animatrices, que près de 80% des jeunes se rendaient à l'école à pied ou à vélo. Aujourd'hui, ben, c'est tout le contraire. Alors, pour renverser cette tendance, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie a lancé le défi « À l'école, à pied ou à vélo, je suis capable ». Et ce, pour inciter les enfants de Magog, entre autres, à délaisser la voiture de leurs parents pour se rendre en classe. Alors, ce mercredi, les élèves de l'école Montessori ont été invités à enfourcher leurs bicyclettes ou à chausser leurs espadrilles pour s'y rendre. On les a récompensés en les accueillant dans la cour, dans une ambiance bien festive. Il y avait musique, limonade. Et tous ceux qui ont relevé ce défi, ben, ils se sont vus remettre un macaron indiquant leur exploit. Alors, 2 témoignages. Ça me fait faire du sport, ça garde mon corps en santé et ça aide la planète.
Oui.
Et quelque chose de plus sage, c'est aussi bon pour la concentration à l'école. Maintenant, je vous parle d'un défi santé. 7 personnes, de quel âge? Eh bien, de 80 ans et plus, ont fait une sortie de 80 km à vélo lundi dernier pour fêter leurs 80 ans et montrer l'importance de garder une bonne forme physique. En fait, ils avaient entre 80 et 85 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Ils ont décidé de relever ce défi en 4 heures, soit une moyenne de 80 km par heure, ce
non,
qui n'est pas léger.
De 20 km à l'heure.
Pardon?
Vous avez dit 80 km à l'heure.
Ah non, de 20 km à l'heure. Excusez-moi. Et il y a entre autres Daniel Roy, qui a 85 ans, qui ne fait pas les choses à moitié parce qu'il s'est même rendu au point de départ du parcours à vélo où ses amis et sa conjointe l'attendaient. Un des objectifs de cette virée entre amis, c'était de récolter des dons pour le groupe Récupère dont ton vélo, dont c'est D-O-N, c'est pas D-O-N-T, un groupe qui récupère et remet en état les vélos pour les sorties aux jeunes Sherbrookois dans le besoin.
Oui, wow.
Alors voilà, c'était les belles nouvelles, je dirais,
oui,
des cantons de l'Est.
Merci beaucoup, c'est vraiment des belles nouvelles. Merci.
Merci.
Du côté de Québec, le jardin Jean-Paul Lallier sera bientôt l'hôte d'une bibliothèque vivante. Les curieux de passage dans le secteur auront l'occasion d'emprunter un livre humain, de s'asseoir à ses côtés et d'en tourner les pages afin de découvrir l'un de ses chapitres de vie. C'est de créer des dialogues entre le grand public et des gens ayant souffert de problèmes de santé mentale, et ça n'a pas été très simple à organiser. Et ça, même si le sujet résonne davantage au sein de la population, avec l'activité « S'ouvrir à la bienveillance », l'organisme communautaire PEC Sherpa a toutefois bon espoir d'y parvenir. L'organisation qui participe au rétablissement des personnes avec des problèmes multiples voit en ce projet une façon de combattre une panoplie de préjugés. Par exemple, le 10 juin, les participants seront accueillis au jardin Jean-Paul Lallier par des bibliothécaires, des bénévoles, qui leur présenteront un catalogue, puis à l'intérieur, le résumé en 2-3 phrases de chacun des livres susceptibles d'être empruntés, des personnes. Et les gens vont pouvoir aller dans le jardin, s'asseoir avec la personne et jaser. Chose qui existe presque plus maintenant, de nos jours, avec les médias sociaux. Alors, on fait une petite pause. Au retour, il y aura cette entrevue avec Mme Judith Belair-Kyle. Kyle, on va parler de maladie, on va parler de vélo, on va parler de plein de choses intéressantes. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Qui va chercher les chaudières dans les tables? Tu les déposes à mes pieds dès que je pleure d'être avec toi. Tu avales la boule de foin et tu fermes.
Quand je me fais feu de feu.
cette conversation qu'on va avoir dans quelques instants a été enregistrée mercredi. Et le chemin pour rencontrer nos invités dans la chronique « Au-delà des limites » peut prendre des tournants insoupçonnés. Il y a deux semaines, je lis le droit pour préparer les unes régionales de Au quotidien 5e édition et je tombe sur cet article qui est une reprise d'un article du Nouvelliste de Trois-Rivières. Ça s'intitule « Greffer et à vélo pour aider les autres ». Alors, je vais passer quelques minutes avec Judith Bélair-Kerr, qui est la personne dont on parle dans cet article. Bonjour, Judith.
Bonjour.
Alors, je sais, puis on va l'apprendre aussi dans notre conversation, que vous avez reçu un rein en cadeau. Oui, c'est un cadeau, en fait. D'une personne qui est un cultivateur de légumes bio. Alors, oui. Pour lancer cette entrevue extrêmement sérieuse, est-ce que vous vous êtes lancé dans la consommation de légumes bio?
Ben, c'est drôle, justement, parce que une des premières choses que Frédéric, mon donneur, me dit quand on s'est contacté, c'est que, justement, il m'offrait un rein bio, fait que d'une qualité supérieure en plus. Fait que c'est ça. Mais j'ai toujours mangé le mieux possible, là, bio, si c'est pas trop cher, puis tout ça, mais c'est ça.
Là, vous allez avoir une motivation spéciale.
Exact. Mon rein est habitué à ça. Il faut que je continue cette tradition. Ouais.
Alors, Judith, racontez-nous un peu, pas longtemps, mais votre maladie, qu'est-ce que vous aviez, que vous avez
encore? J'ai la maladie polycystique rénale, puis c'est un bon point que je l'ai encore. Parce que même si je suis greffée, je vais quand même continuer d'avoir des enjeux avec cette maladie-là dans le futur. C'est une maladie héréditaire qui, dans le fond, dans les reins, là, il y a des kystes qui se multiplient, si on veut, et qui déchirent les reins. Ils deviennent très, très gros. Ils peuvent devenir plus gros qu'un ballon de football. Ils peuvent même peser 40 livres chaque. Ils peuvent peser 40 livres chaque de liquide à l'intérieur des kystes. Devenir très gros.
C'était les deux reins qui étaient touchés?
Oui, c'est les deux reins. C'est toujours les deux reins. Puis ça peut toucher aussi d'autres organes. Comme moi, j'ai commencé à en avoir sur le foie. J'espère que ça augmentera pas beaucoup, mais c'est lié. Là. On voit souvent ça. Il y a aussi des risques d'anévrisme plus grands. Fait que c'est une maladie qui est invisible, mais qui touche beaucoup de gens. On est à peu près une personne sur 400, entre une personne sur 400 et une personne sur 1000 qui l'a dans le monde. Ça touche toutes les cultures, toutes les origines. Puis comme c'est héréditaire, souvent, ça fait mal à des familles entières. T'sais. Moi, je suis chanceuse, c'est mon père qui l'a, puis il a 87 ans, puis ça va bien, là, mais il y a des familles qui perdent les membres de leur famille dans la cinquantaine, souvent.
Oui, oui.
C'est ça. Puis il n'y a pas de remède. Fait que c'est pour ça que le Vélothon dont on va parler là, est super important.
Oui, oui. Puis qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, à part de vivre avec cette maladie?
J'ai travaillé 9 ans et demi en réadaptation, en troubles graves de comportement, en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme.
Quand même!
C'était toute une carrière. Je dis que je suis une ancienne ninja, là, vu que je travaillais en troubles graves de comportement. Une ninja à la retraite. Mm-hmm. Mais maintenant, pendant ce temps-là, j'ai fait ma maîtrise en administration des affaires à HEC. Puis maintenant, je travaille au CIUS en Mauricie, Centre du Québec, comme... un peu coach de gestionnaire pour les aider à aider leurs équipes, finalement, pour aider le patient, autant dans leur processus que dans leur communication. Fait que j'ai vraiment une job intéressante là, où je peux faire une différence. Fait que j'ai hâte d'y retourner.
Oui. Et là, vous viviez avec cette maladie et là, ça commençait à hypothéquer vraiment vos activités, votre travail. Et vous avez eu une décision quand même assez surprenante.
Oui, vous voulez parler du fait de chercher un rein sur Internet?
Oui, tout à fait. Y a-t-il eu d'autres décisions surprenantes, ça se peut?
Oui, il y en a eu, parce que quand on m'a appris que j'étais malade, il me restait 30 % de fonction rénale, puis on m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant tant que j'aurais pas une greffe, ce qui voulait dire que la greffe était pressante, puis j'aurais pu essayer le seul traitement qui existe pour essayer de ralentir la maladie, mais on a fait le choix de... laisser dépérir ma fonction rénale plus vite pour être sûr que je sois assez jeune pour faire des enfants après la greffe, en fait. Fait que ça, c'est un choix surprenant qu'on a dû prendre. C'est ça. Puis pour le fait d'avoir
trouver le donneur. Oui, c'est ça.
Trouver le donneur, c'est que, dans le fond, ça faisait 2 ans que j'étais malade, comme 1 an et demi, 2 ans, j'avais mal au cœur. J'étais de plus en plus fatiguée, puis j'arrivais pas à me concentrer. On parle de brouillard mental. Puis là, j'ai réalisé que ça se pouvait que ça prenne 5 à 7 ans avant que j'aille un rein parce que je suis O positif et parce que je faisais pas de dialyse. Ma fonction rénale avait stagné à 12 % puis on commence la dialyse juste à 10. Puis pour obtenir un rein de donneur cadavérique, il faut on gagne des points en étant en dialyse. Moi, j'en gagnais pas.
Oh.
Fait que là, je me suis dit, bon ben, je suis jeune, je veux faire un enfant, au moins un, tu sais, puis je veux retourner au travail. Puis mon néphrologue m'a dit, ben essaye sur les médias sociaux, ça marche beaucoup aux États-Unis, tu peux regarder si ça va marcher ici. C'est ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à justement faire mon blog, puis les médias sociaux, puis parler de ce que je vis dans les médias.
Puis là, il y a quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout a levé la main. Vous ne l'avez pas su tout de suite, hein, je pense, parce qu'il faut qu'il passe un certain nombre de tests.
Exact. Il y a des gens qui commençaient les tests puis qui m'écrivaient pour me le dire, mais lui, c'était tout à fait inattendu. Là. Je pensais que j'avais plus personne qui faisait les tests parce que personne n'était compatible. Mais finalement, on m'a appelé en septembre dernier pour me dire « Nous avons un donneur pour toi. Il a fait tous les tests et il est prêt à te donner un rein fin novembre, début décembre. Est-ce que ça te va? » J'étais comme « Oui, bien sûr.
» Là, on essaie de ramasser sa mâchoire qui vient de tomber par terre. Là, puis...
Oui, j'y croyais pas au début parce que j'avais eu d'autres déceptions avant, tu sais. Mais quand on l'a rencontré début novembre, puis que lui était comme, moi c'est clair dans ma tête que je ne vais pas changer d'idée, j'ai commencé à y croire.
Et à un moment donné, vous avez accepté que Radio-Canada fasse un documentaire sur ce parcours-là. Comment c'est arrivé cette affaire-là, puis pourquoi vous avez dit oui à un documentaire?
Je parle beaucoup à mes médias, surtout régionaux, ici à Trois-Rivières, puis à Mauricie-Centre-du-Québec, puis ils sont beaucoup aidants pour propager la bonne nouvelle sur la maladie rénale. Puis, même je suis allée faire une entrevue à Radio-Canada, puis après l'entrevue, elle me fait un signe de « je vais t'appeler ». Fait que là, la journaliste Julie Gremont m'appelle le lendemain pour me dire « j'ai une idée ». On pourrait faire un documentaire parce que là, je venais d'annoncer que j'avais trouvé un donneur, en fait. Puis là, elle m'a demandé de contacter mon donneur pour voir s'il serait prêt à être dans le documentaire aussi. Puis là, moi, j'étais pas sûre parce que, tu sais, je voulais... C'est demander quelque chose de plus à quelqu'un qui donne déjà beaucoup. Je voulais pas que ça y fasse peur puis tout ça.
Mm-hmm.
J'ai fini par y demander et puis il m'a dit, tu sais, je te suis sur les réseaux sociaux, je comprends c'est quoi ta démarche, je comprends c'est quoi ta démarche de sensibilisation, puis je suis prêt à le faire aussi. Fait qu'on a embarqué là-dedans, puis ça a été un processus de presque 6 mois et c'était vraiment bien. Là. Ils m'ont vraiment comme accompagné dans tout ça. Là, finalement.
Alors, pour ceux qui seraient intéressés, là, c'est sur tout.tv qu'on peut trouver ce documentaire-là. On va terminer maintenant en parlant du Vélothon.
Oui.
Ça s'appelle un très beau nom, Rouler jusqu'à la Lune. Et
oui.
Je pense que vous avez roulé pas mal proche de la Lune, là, de la manière que c'est parti là.
C'est sûr que pour aller à la Lune, ça prend 384 000 km.
Ah, vous le savez?
Tout à fait là. Oui. Puis, mais moi, je suis rendue à 163 km ce mois-ci parce que c'est un vélothon qui dure tout le mois. On fait autant de kilomètres qu'on peut. Puis les gens peuvent donner sur Internet pour nous encourager puis donner à la cause pour trouver un remède à la maladie que j'ai, la maladie polykystique des reins.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Aujourd'hui, là, mercredi, je devrais atteindre le 200 km pour terminer mon mois. C'est mon objectif. Fait que je suis très contente. C'est le jour et la nuit. J'avais fait l'année passée. Puis... c'était vraiment difficile. J'avais pas atteint 100 km. Puis cette année, ça se fait naturellement. Puis je suis vraiment heureuse d'aller mieux. Ça fait juste 6 mois, hein, ma greffe.
Oui, c'est ça que j'étais pour souligner. Vous venez de recevoir un rein. C'est pas, ça fait pas des années. Là.
Non, c'est ça. Ma forme physique est presque revenue au complet. Là. Il me reste encore mon énergie à ajuster. Là. J'ai été en arrêt de travail longtemps, puis j'ai été malade beaucoup. Fait que, mais mon corps est presque correct. Fait que, c'est ça. Fait que le rouler jusqu'à la Lune, c'est un vélotour organisé par la Fondation canadienne de la maladie polykystique des reins. C'est partout au Canada. Il y a des gens qui roulent, puis qui ramassent de l'argent, justement, sur Internet pour financer la recherche, autant pour les traitements de la maladie, pour essayer de la ralentir, que pour trouver un remède.
Bravo. En terminant, vous l'avez mentionné tantôt, que quand vous avez fait votre publication Facebook pour chercher un rein, vous aviez parlé de votre désir de créer une famille. Est-ce que c'est le souhait que je vous offre pour terminer cette conversation?
C'est ce que j'espère le plus au monde. En fait, on a congelé des ovules quand on a appris que j'étais malade, puis on va essayer de vérifier génétiquement lesquels qui n'ont pas ma maladie, justement pour pas que je donne ça à mes enfants puis qu'ils aillent à vivre une greffe à 36 ans comme j'ai vécu. Fait que c'est une autre aventure dans laquelle on va s'embarquer dans pas long. On peut commencer l'implantation des embryons à partir d'un an après la greffe, fait qu'on va commencer à l'automne là, de continuer le processus. Mais merci pour le souhait,
C'est de tout cœur.
Depuis très longtemps.
C'est de tout cœur. Alors, on a passé quelques minutes avec Judith Bélair-Kyle, qui vient de recevoir un rein et qui, mon Dieu, est au début de plusieurs belles grandes aventures. Merci beaucoup pour cette conversation.
Les gens peuvent donner, en fait, si jamais ils sont intéressés. Pour donner, ils vont sur le site bit.ly, fait que bit.ly
oui.
/ rouler jusqu'à la lune sans accent, sans apostrophe 2023. Et puis, c'est possible de donner donc jusqu'au 15 juin prochain.
Voilà, le message est fait. Alors, je vous souhaite.
Beaucoup.
Je sais que vous partez sur votre vélo, alors une belle randonnée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bye.
Merci Yvan pour cette très belle entrevue avec Mme Bélair-Kyle. Avant de laisser la parole à Marcel Dugas, bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Oui, une toute petite mise à jour concernant une nouvelle dont on a parlé ce matin. Alors, on vient de recevoir un message qui dit que présentement à cette île, on est en évacuation, donc la situation est loin d'être sous contrôle. 10 000 personnes qui doivent être évacuées à cause évidemment de l'intensité des feux. Voilà. Marcel, nous, on va se concentrer sur Montréal, je crois. Quoique, c'est pas tout à fait vrai, parce que Zellers, je pense, était coast to coast au Québec.
Ah, c'est pas un Canadien.
Pas un Canadien. Alors, comme on est très québécois, très chauvin, on a parlé de coast to coast au Québec. Et vous allez aussi nous parler d'Eaton's. Donc, c'est deux chaînes de magasins qui sont disparus, mais dont on entend parler encore parfois. On vous écoute.
Ben oui, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais la compagnie de la baie du Tisson a décidé de jouer la carte de la nostalgie en ressuscitant la bannière Zellers dans 25 de ses magasins au début de 2023. Et j'ai pas visité moi-même d'enclave Zellers, je ne sais pas si vous êtes allé, Francine, à la baie, ça a semblé laisser les gens sur leur appétit. Donc, je vous propose qu'on se fasse une chronique magasinage nostalgique ce matin, se remémorer quelques chaînes de magasins aujourd'hui disparues, où on a acheté, qui ont fait partie du décor pendant des décennies, dont on a vu et entendu les publicités. Et commençons par Zellers. Justement, Zellers, comme bien des magasins d'autrefois, reprenait le nom de son fondateur. Il s'appelait Walter Philip Zeller, petit-fils d'immigrants allemands, né en 1890 dans la ville ontarienne qui s'appelait à l'époque Berlin, devenu Kitchener en 1916 alors que le Canada était en guerre contre l'Allemagne. Zeller va travailler pour deux grandes chaînes de magasins, elles aussi disparues, Woolworth puis Kresge aux États-Unis. De retour dans son Ontario natal, il ouvre son premier magasin à London en août 1928. Et ce sera le point de départ d'une chaîne qui fait de tellement bonnes affaires qu'elle est achetée au bout de quelques mois seulement par une compagnie américaine nommée Schultz United. Mais cette dernière n'avait pas les reins très solides et elle va faire faillite dans les premières années de la crise économique des années 1930. Ce qui fait qu'en 1931, Zeller rachète, probablement à très bon prix, les magasins de Schultz United dans le sud de l'Ontario, dont son magasin original de London, et relance Zellers. La chaîne va très vite s'installer au Québec. D'ailleurs, le siège social de Zellers sera à Montréal et le fondateur va passer une bonne partie de sa vie dans la métropole. Il est même enterré au cimetière du Mont-Royal. Et en 1934, on est déjà bien implanté hors de Montréal également. Je voulais une publicité que j'ai trouvée dans le journal La Patrie alors qu'on célébrait le tricentenaire de la fondation de Trois-Rivières. Si vous parcourez la rue des Forges aux Trois-Rivières, vous y voyez des magasins modernes, variés et achalandés qui font l'orgueil de la cité trifluvienne. L'un de ces centres commerciaux appartient à la firme Zellers, dont M. Walter Zeller est président. On peut y trouver quantité de marchandises canadiennes déployées de manière à charmer l'œil d'une qualité supérieure et qu'un personnel courtois se prépare à servir à la nombreuse clientèle intéressée. Je ne sais pas si quand vous vous rappelez vos visites chez Zellers au fil des ans, vous pensez à des marchandises qui charmaient l'œil, mais enfin, bref, c'était la façon qu'on présentait ça à l'époque.
Marcel, j'ai travaillé, moi, en tant qu'étudiante chez Zellers, et j'ai pas, en tout cas, je pense pas qu'on avait de mandat de charmer l'œil avec
charmer
nos
l'œil?
Produits. Je me rappelle pas.
Bien, la chaîne va grossir rapidement, passant de 14 magasins du départ à 60, 25 ans plus tard. Elle employait alors 3000 personnes. On va procéder à de nombreuses acquisitions au fil des ans, jusqu'au moment où Zellers est elle-même achetée par la compagnie de l'abbé Dutson en 1978. C'est ce qui fait que l'abbé peut reprendre la marque Zellers. La bannière lui appartient depuis maintenant près d'un demi-siècle. Les années 1980 et 1990 vont être favorables à Zellers qui connaît une forte croissance. On atteint 350 magasins en 1999. C'était l'époque du slogan « Là où le prix le plus bas fait loi ». Mais la chute sera brutale. 12 ans plus tard, on vend les baux de plus de 200 des magasins Zellers qui étaient toujours ouverts à Target. On se rappelle la désastreuse aventure de Target chez nous. Et le dernier magasin Zellers du Québec a fermé ses portes au début de 2004. Et le deuxième magasin dont je veux vous parler, ben, c'est Eaton, une autre grande chaîne qui porte le nom de son fondateur, Timothy Eaton, né de parents écossais dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord en 1834. Il immigre au Canada avec plusieurs membres de sa famille à l'âge de 20 ans. Il travaille dans le commerce de détail. Il va tenter de lancer une boulangerie avec ses frères. Ce sera un échec. Mais il va se porter acquéreur d'un commerce à St. Mary's, petite municipalité, pas très loin de London, là où Walter Zeller a fondé son premier magasin, incidemment. En 1869, Eaton en a assez des petites villes et décide d'acheter un nouveau magasin, rue Yonge, tout près de la rue B, dans ce qui est aujourd'hui le cœur de Toronto. Tout petit emplacement, Eaton avait 4 employés sous ses ordres, mais c'est là qu'est né ce qui deviendra la plus grande chaîne de magasins de détail du Canada. Eaton était très avant-gardiste dans sa gestion des affaires. Dans son magasin, on vendait les articles à des prix fixes. Il n'y avait pas de négociation, comme le faisaient généralement les commerces de l'époque. On ne faisait pas de crédit. Et si le client ou la cliente n'était pas satisfait, on lui remboursait son argent, politique qui a été une des marques de commerce de l'entreprise tout au long de son histoire. Autre innovation qui a grandement contribué à la popularité d'Eaton, le magasin lance en 1884 son service de vente par catalogue. À une époque où une forte proportion de la population vit dans les campagnes et que les moyens de transport sont rudimentaires, c'était une véritable révolution. On n'était plus obligé de se contenter de ce que le magasin général du village avait en inventaire, ni d'atteler la jument pour faire le souvent long voyage jusqu'à la ville la plus proche. On trouvait dans le catalogue Eaton et dans celui de ses concurrents qui sont venus par la suite, à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était l'équivalent, 19e siècle, des plateformes d'achat en ligne d'aujourd'hui, même si les délais de livraison n'étaient pas les mêmes que ce qu'on retrouve maintenant. En termes de présence physique, au Québec, Eaton va frapper un grand coup en achetant en 1925 une des principales enseignes du commerce de détail à Montréal, les magasins Goodwin. On a payé 5 300 000 $ comptant, méga transaction pour l'époque, et on prévoyait investir un 3 millions additionnels pour rénover et agrandir tout particulièrement le grand magasin Goodwin de la rue Sainte-Catherine. Devenu le grand magasin Eaton, on a ajouté 6 étages à l'édifice original, et c'est là qu'en 1931, on a ouvert le fameux restaurant du 9e étage, dont on prévoit la réouverture très prochainement. Les magasins Eaton faisaient également parler d'eux en commanditant des défilés du Père Noël, à Montréal, à Winnipeg, mais surtout à Toronto. À partir de 1905, on disait que c'était le plus grand en Amérique du Nord. Il a été diffusé à la radio dès les années 1930, puis à la télé dès les débuts de ce médium au Canada. Même le réseau de télévision américain CBS en diffusait des portions au sud de la frontière. C'était évidemment une publicité formidable pour la chaîne. Et en 1976, coup de tonnerre au Canada, tout particulièrement au Canada anglais, Eaton cesse de produire son fameux catalogue qui était une institution depuis presque un siècle. On disait que c'était plus rentable, la vente par catalogue, qu'avec le développement des centres commerciaux de banlieue, la société de l'automobile, les gens avaient plus envie de commander et d'attendre que la marchandise arrive. Ceci dit, Sears, grand concurrent d'Eaton, a continué à vendre par catalogue pendant des décennies après qu'Eaton se soit retiré du marché. La chaîne avait peut-être tout simplement perdu sa touche magique. Les années 1980 seront très dures pour Eaton, qui comptait plus que la plupart de ses concurrents sur les grands magasins des centres-villes des agglomérations majeures. Et la concurrence de chaînes comme Zellers, mais aussi l'arrivée de Walmart en 1994, le géant américain qui s'était porté acquéreur des magasins Woolco du Canada, on passe d'une bannière qui n'existe plus à une autre, a poussé Eaton à la faillite en 1999 après 130 ans d'opération. Eaton a été racheté par son concurrent Sears, qui a tenté de relancer la marque Eaton et le fameux catalogue entre 2000 et 2002 sans succès, et Sears a connu le même sort qu'Eaton en 2018. Et je vais terminer, Francine, avec un petit détail amusant à propos de Timothy Eaton. On trouve une statue grandeur nature de lui au Canada Life Center, le domicile des Jets de Winnipeg de la Ligue nationale de hockey. Et vous vous demandez probablement pourquoi les Jets à honorer quelqu'un qui n'a aucun lien connu avec le hockey. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1919, les employés d'Eaton ont offert deux statues de bronze de leur ancien patron à la famille Eaton pour célébrer les 50 ans de l'entreprise. Parlez-moi de ça, vous, des employés qui aiment leur compagnie. Et une des deux statues a été exposée pendant des décennies dans le grand magasin Eaton de Winnipeg. Et l'aréna où évoluent les Jets a été construit sur le site occupé autrefois par le magasin. On a tout simplement décidé de laisser la statue à peu près là où elle se trouvait. Et on dit que c'est un porte-bonheur. Elle n'a pas amené beaucoup de bonheur aux Jets à venir jusqu'à présent.
Non,
il faut,
hein?
Il faut être patient avec ces choses-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Alors, on va essayer de suivre votre conseil et d'exercer notre patience. Merci beaucoup, Marcel, pour ce voyage, hein, finalement. C'est un voyage dans l'industrie du shopping, du magasinage, comme on dit chez nous, avec un peu de nostalgie. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, Francine, du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Oui, d'ailleurs, je sais qu'hier, c'est hier, je crois,
oui, c'est hier.
On a fait une entrevue, Camille Tchaï a fait une entrevue
oui.
avec la porte-parole.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est Rosalie Taillefer, mon Dieu, j'ai oublié son nom de famille.
Simard, peut-être. C'est ça, peut-être Simard. Et d'ailleurs, on le trouve sur notre site, hein? On la retrouve, cette entrevue-là.
Oui. Puis on rencontre des gens qui ont eu toutes sortes de facilités et difficultés, surtout, à avoir des enfants. C'est vraiment une table ronde très intéressante.
Moi, je vous amène ailleurs, mais toujours sur le même sujet. Je vous amène sur l'Office des personnes handicapées du Québec, l'ophq.gouv.qc.ca, mais OPHQ, vous allez y arriver. Je vous amène sur l'onglet à gauche complètement du site qui parle évidemment de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et pourquoi je vous amène là? Parce qu'il y a différentes choses qu'on peut faire justement pour soutenir cela, et c'est entre autres d'améliorer notre connaissance sur ce qu'est un handicapé et comment on peut les soutenir dans le développement social. Alors, je dirais, il y a deux affaires importantes. Vous cliquez sur les liens. Il y en a un, c'est toutes des petites boîtes où on dit, par exemple, si on est entrepreneur, si on est ci, si on est
qu'est-ce
qu'on peut faire. Mm-hmm. Et une autre, c'est un jeu questionnaire.
Ah, oh, mon Dieu.
Oui, que vous avez essayé d'ailleurs,
oui,
Yvan, ce
fait.
Matin.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'on voit qu'on a encore pas mal à apprendre, hein?
Oui, bien, il y a des choses qu'avec le temps, on commence à maîtriser un peu plus. Mais oui, il y a encore beaucoup de choses auxquelles on n'est pas conscient. C'est tout à fait vrai.
Alors, du 1er au 7 juin,
voilà.
Allez sur le site.
Au retour, on va parler techno avec une certaine Francine Forget. Et on va parler aussi à Moelle Épinière et Motricité Québec. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Dimanche dernier, Francine, j'ai reçu un courriel de Apple.
Vous êtes chanceux?
Je sais pas.
On vous écrit directement, là, comme ça, là.
Ça, puis c'est bonjour Yvan Deslauriers, là, ça a l'air. Mais habituellement, ce genre de courriel-là, je ne les lis même pas parce que je pense toujours que c'est du hameçonnage puis des choses comme ça. Mais dans ce cas-ci, ça dit que mon flux photo sera fermé le 26 juillet et ça explique la situation, puis ça dit comment faire pour garder ces photos. Et là, je vois que vous allez justement parler de la conservation des photos. Alors, je suis tout oui.
Vous payez pour ce site de conservation des photos. Est-ce que vous payez?
Non.
Ah, c'est ça l'affaire. Parce que normalement, c'est vers ça qu'on va vous amener.
Ah.
Donc, écoutez, je fais une petite mise en garde, mais ce n'est pas vraiment une mise en garde. Je veux juste vous dire que je m'appuie totalement et aveuglément sur l'article de Maxime Johnson dans l'actualité.com pour vous en parler, ce qui n'est pas le cas généralement. Généralement, j'essaie premièrement, je m'alimente à différentes sources. Parce que des fois, les expériences technologiques varient d'une personne à une autre, mais disons que Maxime Johnson, c'est quand même un chroniqueur reconnu
solide
dans son domaine. Et personnellement, je ne conserve pas mes photos ailleurs que sur mon téléphone. Là, j'ai une petite section, mais ça ne vaut pas la peine que je m'abonne à un service comme celui auquel vous êtes abonné. Alors, l'article de Maxime Johnson s'appelle « Un nuage maison pour conserver vos photos sans vous ruiner ». Alors, pourquoi un nuage maison? Parce que généralement, on conserve nos photos sur Google Photos ou sur iCloud.
Oui.
Un des deux.
Oui.
Alors, voilà. Ce qui arrive, c'est que on est dépendant. Et justement, à un moment donné, il y a un espace de stockage. Et quand on dépasse cet espace de stockage, bien, normalement, on va avoir des frais à payer qui sont des frais mensuels. Parce que généralement, il y a quand même... C'est quand même élevé. C'est toujours la même chose, hein? C'est jamais bien cher quand on regarde tous les abonnements, mais finalement, c'est un petit peu moins de 20 $, mais c'est par mois. Puis quand on les additionne, disons qu'on sera un montant important par année. Donc, Maxime Johnson a besoin d'un forfait, lui, de plus de 200 gigas parce qu'il y a plusieurs photos qu'il doit conserver. Et évidemment, sa facture, elle grimpe vite. Parce que un forfait comme ça, ça va coûter pas loin de 160 $ avec Google, puis à peu près 140 $ chez Apple. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire.
Ouais,
alors, on dit, ben ça coûte cher. Fait que là, il a dit, je vais tester un disque dur réseau pour voir si ça peut résoudre mon problème. Et il a trouvé un tel disque qu'il évalue comme étant assez intéressant. Le disque externe, c'est un petit ordinateur. Vous savez maintenant, ces petits ordinateurs-là, c'est le cas de le dire, c'est petit. Ça peut se mettre dans une poche. Tu sais, quand on parle d'un disque externe, avant, ça se transportait pas. Ouais. Maintenant, ça se transporte, c'est vraiment petit. Et avec une consommation énergétique qui est très faible, et sur lequel on peut installer des applications pour notamment entreposer nos photos et nos vidéos. Donc, au lieu d'être sauvegardé chez Apple ou Google, LibSouvenir se retrouve dans cette petite boîte de la taille d'un petit dictionnaire dans notre maison. Et on peut y accéder de la même façon qu'avec un service info nuagique. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a jamais de solutions miracles. Donc, le serveur Synology, l'application Synology, S-Y-N-O-L-O-G-Y, tout équipé avec le NAS, c'est 570 $ pour l'acquérir. Donc, au départ, il y a un coût important pour avoir l'outil pour pouvoir économiser.
Oui, sauf que tantôt, quand vous nous disiez « je suis abonné à ci, puis je suis abonné à ça », celui qui a écrit l'article, c'était 300 $ au total.
C'est-à-dire que 140, non, selon, ouais, mais c'est, si vous prenez les deux,
oui.
Si vous en prenez un seul,
ah, okay.
À ce moment-là, c'est un des deux.
Bon. OK, donc on peut l'amortir sur quelques mois, c'est
oui,
ça que je veux dire.
Mais ce qui arrive là, c'est que tous ces forfaits-là, on est toujours à la merci de ceux qui fixent les montants, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, ça fait que, à un moment donné, c'est rendu trop cher. Puis là, surtout pour des souvenirs. Quand on arrive avec Netflix puis et autres de ce monde, bien, on peut se dire, bon, ben là, je vais arrêter. Là. De toute façon, j'ai pas vraiment le temps d'écouter beaucoup de documentaires, de séries, etc. Ouais. Mais là, c'est qu'on y tient. On veut continuer à les garder. Donc, il a choisi Synology Disk Station et il a pris le plus. Alors, dans son cas, c'est plus que 570 que ça lui a coûté. C'est 670 après avoir upgradé.
Mise à niveau.
Mise à niveau, augmenté, aller chercher la plus grande puissance. Oh, excusez-moi, habituellement, j'essaie de conserver le français, mais là, ça a sorti tout seul. Alors voilà, donc ça c'est important de savoir que c'est un service info-nuagique d'une certaine façon comme les autres, mais qu'il faut payer, sur lequel on a plus de contrôle. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du classement. Donc, je ne sais pas si vous faites ça, mais vous pouvez les classer pour y avoir accès, par exemple, par reconnaissance faciale. Donc, moi, je clique sur la photo d'Yves Deslauriers et à ce moment-là, je peux accéder à un certain nombre de photos.
Vous connaissez un Yves Deslauriers, vous?
Oui, Yves Deslauriers. Ah ben, bon? J'aurais pu parler d'Yvan Deslauriers aussi, mais je me suis retenue un peu. décidément, aujourd'hui, on a des petits accrochages. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on a eu une semaine?
Oh non,
on ne s'est pas vu.
C'est parce que vous ne vous en souvenez pas, c'est toujours comme ça.
Ah, oh, c'est toujours comme ça. Je m'en souviens pas.
Mathieu,
pas,
est...
Généralement,
Mathieu est très d'accord.
Oui, ben coudonc, généralement, il me semble que c'est plus de votre côté
ça
que du mien.
Ça fait notre charme.
Ça fait notre charme. En plus de ça, pour des recherches plus complexes, des requêtes particulières, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est moins avancé du côté de ce logiciel que si on est sur Google et Apple. Et d'ailleurs, je vous dirais, moi, ma grosse réserve, ça serait cela. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un grand nombre de photos, même si je n'ai pas utilisé l'outil dont on parle ici, je vous dirais que c'est sûr que les engins de recherche chez Google, Apple et tout ça, et surtout avec la venue des intelligences artificielles comme ChatGPT, vont être mises à jour plus que régulièrement. Je pense qu'on n'aura même pas le temps d'y penser qu'on a besoin d'une telle chose qu'on va nous arriver avec une solution. Alors voilà pour ce volet. L'autre volet, je vais le faire brièvement parce que je vois que le temps avance. Je voulais vous parler à partir d'un article du Devoir de ce matin, où le titre d'ailleurs est bien, et je trouve qu'il illustre bien tout le cheminement pour arriver à la construction d'Habitat 67. Habitat 67, enfin terminé, 56 ans plus tard. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque où on a fait ça, Moshe Chavdi, qui était un étudiant de McGill, hein, qui terminait son cours en architecture, a jamais pu réaliser le projet dont il rêvait.
Ah oui, vraiment?
Il est arrivé avec quelque chose de beaucoup plus réduit. Et beaucoup plus réduit que avait envisagé. Et quand on voit Habitat 67 aujourd'hui, si vous êtes allé visiter, je l'ai fait récemment parce qu'il y a des visites guidées, c'est sûr que le ciment s'effrite, ça vieillit et ça coûterait extrêmement cher, j'imagine, faire une restauration importante. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, je dirais, un visage numérique de Habitat 67. C'est une compagnie qui généralement travaille dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire on s'est servi de Unreal Engine qui a été développé par Epic Games qui s'occupe évidemment, comme je l'ai dit, de jeux vidéo. Et ce que ça permet, ben, c'est de voir, je dirais, un Habitat 67 en parfaite condition avec le réel projet.
Mais on parle du feu qu'il y a eu à la chapelle.
La chapelle du Bon Pasteur,
oui.
sur Sherbrooke.
Parce que je ne voulais pas dire une mauvaise chapelle, puis là j'avais un blocage. Si on avait fait ce travail-là, est-ce que ça faciliterait peut-être les travaux de rénovation?
Effectivement, peut-être. Oui, effectivement. Ben oui, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on s'en sert parfois en architecture et tout ça. Pour. Mais à l'époque, non. Puis j'imagine qu'une faire une mise à jour de tout ça, ça coûterait extrêmement cher.
Vraiment.
Alors, si vous, vous êtes intéressé par ça, vous pouvez télécharger Unreal Engine. Je vous le dis, cependant, il faut qu'on soit sur un... On peut être sur un portable, mais je veux dire, il faut qu'on soit installé sur un fixe. Donc, vous ne pouvez pas le faire à partir de votre téléphone ou encore de votre tablette. Où on dit que sur la plateforme numérique du devoir, où on a les balados du devoir, il devrait être là. Il ne l'est pas encore. En tout cas, j'ai vérifié avant notre entrée en onde, mais ça devrait se faire sous peu.
Très intéressant. Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant vers, je me tourne téléphoniquement, vers Vanessa Anne-Paris. Peut-être qu'un jour, vous pourriez faire un tour ici au studio, Vanessa.
Ben, il faudrait, hein.
Faudrait.
On se connaît comme si c'était, ça faisait des années, puis on s'est jamais vu. Ouais, on s'est jamais rencontré en personne.
Ce que vous savez pas, c'est que vos bureaux sont pas très loin d'où je demeure.
Ben là, j'ai pas d'excuse.
Et je suis déjà allé à vos bureaux pour chercher des revues. Vous avez un magazine papier.
Oui.
Fait que ça m'est déjà arrivé d'aller là. Fin de l'anecdote personnelle.
Oui, parce qu'on a d'autres choses hein, au programme aujourd'hui.
Bien sûr. Alors, je parle avec Vanessa Anne-Paris, qui est organisatrice communautaire, chef d'équipe intégration sociale à Moelle-Épinière et Motricité Québec. Et vous vouliez me parler du salon du véhicule adapté.
Ben oui, juste parce qu'on s'en était parlé précédemment.
Oui.
Puis ça a eu lieu le 28 mai par une magnifique journée.
Oui, c'était extraordinaire.
C'était un succès. On a eu des gens c'était à Saint-Hubert. On avait des gens de Drummondville. On a des gens de Québec qui sont descendus parce que ça répond vraiment à un besoin. Puis moi, c'était la première fois que je co-organisais plutôt parce que le crédit revient beaucoup à ma collègue Jen Pechberti, mais que je participais à cet événement-là parce que je suis entrée en poste juste avant la pandémie puis j'ai vu à quel point c'était pertinent, puis on a eu bien du fun. Là. Belle journée.
Mais ça a l'air de quoi, les véhicules adaptés? Est-ce qu'il y a des véhicules adaptés électriques? Ça va-tu dans ce sens-là aussi?
Il y en a hybrides. C'est sûr qu'on va voir ça de plus en plus, mais je dirais qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait des motos. Je connais pas les noms techniques. Moi, je suis pas une personne de char, là, mais il y avait des... Je me rappelle plus, une moto spéciale, il y avait un VR, un gros, pratiquement maison mobile, là, un bon 60 pieds qui est en démonstration avec une rampe élévatrice. Il y avait une Tesla, ben oui, on parlait d'électrique, une Tesla adaptée, une BMW. Évidemment, on est habitué un petit peu plus là, des minivans adaptés, mais avec différents types d'adaptations, tant au volant que pour entrée latérale ou à l'arrière. Fait qu'il y avait vraiment de tout. Là. On essayait de montrer la diversité des adaptations possibles.
Et puis là, les personnes qui normalement se déplacent avec un fauteuil roulant motorisé souvent, ils pouvaient essayer ces véhicules-là?
Oui, oui. Tout à fait, sauf évidemment, il y avait certains véhicules là, comme la Tesla qui implique de devoir se transférer, donc qui sont pour des gens qui ont, selon le niveau d'incapacité, là, c'est sûr que c'est pas tous les véhicules qui convenaient à tout le monde, mais oui, les gens, autant les fournisseurs que nos membres qu'on avait sollicités pour exposer leurs véhicules, là, faisaient faire des essais ou des visites. Il y a même quelqu'un qui a prêté sa moto à mon collègue qui a fait le tour du stationnement. En tout cas, comme il était heureux comme un pape. Puis dans le stationnement.
Wow.
Tombant en enfance, oui.
Fantastique.
Oui, c'était vraiment le fun.
Et est-ce que ce même événement va revenir dans un an environ?
Oh oui, il va revenir. Oh, oui. On a l'intention là, de l'organiser à toutes les années comme auparavant. Cette fois-ci, par contre, on va aller plus dans l'est du Québec. On parlait peut-être de la ville de Québec ou encore de Lévis, là, quelque chose dans ce coin-là pour nos membres qui sont un peu plus à l'est.
Bravo. Et aura lieu bientôt votre assemblée générale annuelle?
Oui, c'est la saison des assemblées, donc ça arrive souvent en même temps. Là, la nôtre est le mercredi 14 juin à l'hôtel Montréal Métropolitain. Et ça va se tenir aussi virtuellement, fait que ça va être une AGA hybride. Puis pour les gens en présentiel, il va y avoir un souper réseautage. Fait qu'on invite aussi tous nos partenaires, hein. Si ça vous tente, la gang de Canalem, on vous ferait les bienvenus. Je vous envoie on aime ça.
Surtout
oui,
que
avec plaisir.
L'hôtel Montréal Métropolitain, c'est où au fait?
C'est en bordure de
Métropolitain, hein?
Oui, c'est ça.
Puis Saint-Michel, c'est à peu près?
Oui, c'est ça. Exactement. C'est l'hôtel qui passe juste devant la Métropolitaine.
Oui.
C'est pas le plus bel emplacement pour ça. On a petits enjeux aussi là pour lesquels on doit prévoir, par exemple, l'emplacement du stationnement. Mais on a tout prévu pour que ce soit agréable. Mais une fois à l'intérieur, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Là,
bon, ben je note, puis ça se peut que je passe par là.
Ben, on aimerait ça. Ce serait le fun.
On pourrait se voir à la binette.
On pourrait se voir à la binette, on pourrait souper, on pourrait... C'est l'occasion pour les membres, les partenaires. C'est vraiment là un moment où on rassemble notre communauté de Mémo Québec, puis autant les gens, parce qu'on a beaucoup de membres aussi dans les différentes régions du Québec. Donc, la formule hybride sert à ça. Puis pour les gens qui pourront malheureusement pas assister en présentiel, on va faire tirer des prix de participation qui sont quand même des très beaux prix pour qu'il y ait un petit quelque chose aussi, fait qu'on essaie.
Bravo. Donc, c'est mardi, pas la semaine qui va commencer.
Mercredi,
l'autre.
Exactement. Mercredi 14 juin.
Mercredi, oui, vous avez. Oui.
À compter de 16h30, cocktail de bienvenue, assemblée de 17h à 19h15 environ, suivi d'un souper, un délicieux souper.
D'accord. Et on termine ça avec une randonnée vélo.
Oui, randonnée vélo. Je suis pas bonne, j'ai pas la date par cœur dans mon cerveau.
Ah, moi, sur ma feuille, vous m'avez dit le 17 juin cette semaine.
Ça se peut-tu? C'est-tu un dimanche, ça?
15, 16, ça a l'air d'un samedi. Donc,
Ça a l'air d'un samedi.
Oui,
c'est ça. Et je vais aller voir ça, ce sera pas bien long. On en a à peu près une par mois durant la saison estivale, donc la prochaine... notre site web est pas à jour. Un petit peu négligé. C'est à Blainville.
Oui, c'est ça.
Gare de Blainville, oui, samedi 17 juin, puis il va faire beau cette journée-là.
Ah, il va faire beau cette journée-là? Bon, c'est
oui,
vrai,
oui.
Ça, c'est réglé.
On a commandé le soleil pour le salon du véhicule adapté, puis on l'a eu, d'aplomb, fait qu'il va faire beau, moi je le dis.
Fantastique. Alors, c'est toujours intéressant de vous parler, Vanessa Anne-Paré.
Ben, c'est un plaisir de partager.
Moi, Lépinière et Motricité Québec. Et on se reparle plus tard cet été.
Oui, puis peut-être dans 2 semaines, au plaisir. Merci
ah, peut-être,
beaucoup.
Peut-être, oui.
Peut-être.
Et on s'en va vers tranquillement la fin de notre émission. Francine, normalement, à ce moment-ci, on raconte qu'est-ce qu'on surveille. Je sais que ça fait 2 semaines, là, puis peut-être que ça vous a échappé, mais...
Pas du tout.
Non?
Okay. Pas du tout. Et au contraire, j'ai une longue liste, mais je vais essayer de me restreindre.
Oh non, allez-y.
Essayez de me restreindre.
Parce que vous avez souvent des idées que moi, j'ai pas, là, on a des centres d'intérêt différents.
On n'est pas, disons, dans les mêmes champs d'intérêt.
On ne sort pas ensemble.
Puis la complémentarité fait que c'est notre force.
Oui, c'est ça.
Bon, alors dans un premier temps, c'est pas un événement, c'est juste qu'il annonce beau. Hein? Il annonce beau est beaucoup moins chaud que
en fin de semaine,
ces jours
dire.
Qu'on connaît, oui, oui ce oui. week-end. Oui. Et bien moi, cette semaine, je suis allée faire un tour à l'esplanade de la place Ville-Marie, vous savez, sur le dessus, où on a le fameux anneau là, de, de Claude Cormier, voilà. Et bien c'est aménagé, mais vraiment aménagé cette année, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Hein. L'anneau est arrivé, on a fait des spectacles. L'an dernier, on avait parlé d'un spectacle de cirque qui avait eu, lieu là.
Oui.
Mais là, maintenant, c'est aménagé. Il y a des fauteuils et tout ça. Puis, on n'a pas besoin de consommer, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de payer pour aller là. On peut très bien apporter un petit lunch ou, et ça fait un pique-nique merveilleux.
J'ai déjà travaillé à Place Ville-Marie pendant quelques années. Le regard qu'on peut jeter sur la rue McGill puis l'université, c'est
voilà.
extraordinaire.
Et c'est extraordinaire, et je vais vous dire, même avec les travaux du REM qui sont là,
ouais.
avec cet anneau qui nous oblige à lever un peu les yeux, on est en plein dedans, même si au ras du sol, il y a le REM qui est un peu dérangeant.
Donc, ça vaut vraiment la peine
oui,
de
non,
pas faire
un
détour.
Sérieusement, c'est un détour. Oui, puis ça fait changement des parcs, surtout que dans certains parcs encore, il y a des branches qui traînent et on en entend parler. Hein, les gens vont là, puis il y a encore des choses qui n'ont pas été ramassées
oui,
par la ville.
Oui, je pense que la ville hein, parlait du mi-juin.
Oui, on travaille fort, semble-t-il, mais c'est encore très visible dans certains cas.
Oui.
Je parle brièvement des Franco parce que je suis passée par là ce matin et on est en plein montage, les stands,
Vous
les
leur avez
stands.
Dit quoi faire, là?
C'est ça, j'ai dit Canalem, nous on veut ça comme ça, comme ça, comme ça, pour que nos auditeurs vraiment se sentent à l'aise.
Oui, allez-y.
Vous avez tout compris.
Oui.
C'est du 9 au 17 juin, on va avoir l'occasion d'y revenir, certainement. Mais quand même, je fais un petit lien avec un documentaire que moi j'ai écouté cette semaine, qui s'appelle L'Osticcio. Alors, L'Osticcio, c'est un retour en arrière en 1968, mais je fais un lien avec les Franco d'aujourd'hui parce que il y a tellement de choses qui partent de là quand on voit ce documentaire-là.
C'est vrai, hein?
Qui est très bien fait. Quatre jeunes artistes, hein, qui vont ébranler les colonnes du temple, c'est le cas de le dire, qui vont faire exploser la culture québécoise. Et ces jeunes, qui sont devenus un peu plus âgés avec le temps. Je parle d'Yvon Deschamps, de Mouffe, de Robert Charlebois et de Louise Forestier. Alors, c'est comment s'est bâti, tout croche, ce show-là,
oh, oui,
mais
vraiment.
qui c'est ça, qui n'était pas tout croche quand ça a commencé, parce qu'il y avait une espèce de candeur, de charme là-dedans, et en plus une espèce de spontanéité et d'originalité.
Il y a des carrières qui ont commencé, et des carrières phénoménales.
Là, voilà. Juste à donner ces quatre noms-là, on sait que c'est quand même quelque chose, hein, c'est une base solide, hein,
oui.
une base en humour, une base en gestion de spectacle, si on pense à Mouffe et en production, et évidemment en composition,
ouais.
en concert, en prestation, de la part de Robert Charlebois et de Louise Forestier.
Oui, pensons-y qu'aucune de ces personnes-là n'était un artiste bien établi à ce moment-là.
Aucun, non.
Ils sont tous devenus des grandes vedettes.
Ouais, et ensemble, je dirais, parce que des fois, on arrive à percer seul. D'ailleurs, on le voit, c'est un phénomène qu'on voit encore dans des groupes québécois, entre autres, où à un moment donné, il y en a un qui décide de faire un petit solo pendant un certain temps, et après ça, la carrière se développe, et puis, bon, le groupe prend de moins en moins d'importance et s'efface. C'est pas toujours le cas, parce que dans le cas des Cowboys Fringants, il y a quand même eu des percées personnelles,
ouais.
et ça a continué, mais il reste que c'est pas toujours aussi évident.
Mm-hmm.
Mais pour ce qui est de leur part, ils ont même produit cette hostie de show un peu partout, hein? Un peu partout, d'ailleurs, ils ont laissé des traces importante du côté de la France.
Pas juste importante, oui, majeure.
Oui, oui, majeure. Oui. Et en terminant, je vous dis que le Musée des Beaux-Arts est à surveiller parce que à compter de ce week-end, en fait, à compter du 3, ça se poursuit jusqu'au 1er octobre, mais ça commence le 3 juin. C'est, semble-t-il, une exposition vraiment majeure qui s'appelle « Pensée et splendeur » de la Colombie autochtone, et c'est issu d'un partenariat avec la communauté Arhuaco de la Sierra Nevada, Et cette exposition-là, semble-t-il, va nous amener à avoir un regard très nouveau ou encore différent sur notre monde, sur notre société contemporaine. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça commence demain, mais disons que c'est à surveiller. Et pour ceux qui veulent voir ça en primeur, ben pourquoi pas?
Mm-hmm. Et de mon côté, oui, il va faire très beau. Alors, sortez dehors, allez faire de la marche, du vélo, aller dans le Vieux-Port, etc. Mais si il va y avoir des temps, vous ne serez pas toujours dehors, alors il y a le début de la finale de la Coupe Stanley qui commence samedi avec deux équipes vraiment fantastiques, là, les Panthers de la Floride puis Las Vegas. C'est comme... C'est quasiment une tradition. On les
a jamais entendus. Oui, avez-vous vu l'indifférence de la foule?
Oui,
de
oui, c'est ça.
Ça a circulé sur les médias sociaux.
C'est la fin de la Coupe Mémoriale aussi en fin de semaine et peut-être que Patrick Roy et les Remparts de Québec vont gagner la Coupe Mémoriale. Alors, c'est à suivre. Ce sera le Tour de l'île.
Oh là
donc,
là!
Ce soir et dimanche. Alors, en fin de semaine, entre 17h et minuit, il y a des axes qui vont être bloqués pour le tour de nuit dans Rosemont, Saint-Léonard et Montréal-Nord. La boucle empruntée par les participants passe entre autres par les rues Viaud, Beaubien et les boulevards Langelier, Gouin et Provencher. Et dimanche, le 4 juin, ce sera au tour des cyclistes de jour et des gens de nos amis de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain qui vont le faire en tandem. Ils vont enfourcher leur vélo et pédaler à travers les quartiers de la métropole. Il y aura des impacts sur la circulation dans Rosemont-la-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Hunsic, Villeray et Pac-Extension. Parmi les grands axes bloqués par le Tour de l'île, on retrouve les boulevards Provencher, Lavoisier, Gouin, de l'Acadie et Rosemont ou encore la rue Viaud. Alors, je pense que c'est important, si vous voulez faire des activités... entre autres, les suggestions de Francine qui sont plus dans
le centre-ville. Mais hein. Attention, allez sur le site 511 parce
oui,
que
ça.
Je ne veux pas gratter le bobo, comme on dit, là, mais disons qu'on a 51 chantiers majeurs à Montréal.
Alors, faites attention, regardez ça avant de,
exactement.
Avant de sortir.
Et oui, c'est la fin. Merci, oui. Chers auditeurs. Merci à Yvan. Merci évidemment à Mathieu Tessier. Et on se revoit la semaine prochaine.
Oui, c'est un rendez-vous de vendredi prochain, on va être le 9 juin, à 9h30, au Canal M. Alors, on vous attend.
Vous pouvez rejoindre l'équipe.